Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
En Ouganda, une université privée a demandé à certaines étudiantes des tests de grossesse pour passer les examens de fin d'année. Devant le tollé provoqué par cette directive, l'université internationale Kampala a fait marche arrière en l'annulant, sans toutefois expliquer pourquoi elle avait été prise. Un document interne demandait à toutes les étudiantes infirmières et sages-femmes de passer un test de grossesse de 5000 shillings. Si vous ne le faites pas, vous ne passerez pas les examens de fin d'année, stipulait le texte. La polémique est arrivée jusqu'à l'Assemblée nationale, où la présidente Anita Anetamong a jugé cette directive très malheureuse. Et la militante féministe Catherine Kiyobutungi l'a qualifiée de foutaise totale, discriminatoire et inacceptable. En Afrique du Sud, la publication par la police des derniers chiffres de la criminalité révèle une forte augmentation des meurtres, viols et enlèvements. Plus de 7000 personnes, dont près d'un millier de femmes, ont été assassinées entre juillet et septembre 2022, soit une augmentation de 14% par rapport à la même période en 2021. Les viols augmentent de 11% avec 10 000 cas signalés, sans compter ce qui reste sous silence. Les enlèvements ont doublé à plus de 4 000 cas et les attaques contre des automobilistes ont augmenté de 24% à plus de 6 000 incidents. Il est choquant de constater qu'en 6 mois seulement, 558 enfants ont été tués entre avril et septembre, a déclaré le ministre de la Police, Bekki Sélé, annonçant 10 000 nouvelles recrues. Des millions de personnes vivent dans la peur, a réagi un parlementaire de l'opposition, appelant au renvoi du ministre. Un précédent rapport indiquait déjà une forte augmentation des crimes violents en Afrique du Sud. Les violences subies par les femmes migrantes sur les chemins de l'exil devraient être prises en considération lors de l'examen de leur demande d'asile en France, plaide une association parisienne de soins aux migrants dans un rapport publié fin novembre 2022. Ces violences quasi systématiques sont un angle mort dans la procédure d'asile actuelle, souligne le centre Primo Levi qui prend en charge des victimes de torture et de violences politiques exilées en France. Les exactions endurées lors du voyage clandestin doivent être prises en compte dans la décision d'octroi de l'asile car elles font courir un nouveau risque en cas de retour dans le pays d'origine et la victime risque d'être ostracisée dans sa communauté, indique le rapport. Les femmes migrantes seules subissent des violences dans leur pays d'origine, sur le parcours de l'exil, puis à leur arrivée en France, précise le rapport. Lorsqu'elles se présentent traumatisées devant la justice pour demander l'asile, elles ne parviennent pas à donner un récit clair de ce qu'elles ont enduré, observe l'association. Beaucoup de femmes prises en charge par l'ONG souffrent de troubles post-traumatiques ou de dépression sévère, alerte le centre Primo Levi, du nom de l'écrivain italien survivant de l'Holocauste.
Parole de femme.
« Au Cameroun, les violences conjugales et domestiques faites aux filles et aux femmes sont en augmentation. C'est ce qu'indique un rapport de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme qui a été publié lors d'une campagne lancée par les pouvoirs publics contre les violences basées sur le genre. Suivons ce reportage d'Emmanuel Juntap, correspondant de VOA Afrique à Yaoundé.
Il a commencé à me secouer violemment. Et la scène ne se passe pas dans un cadre secret, c'est dans une rue. Il y a des gens qui sont assis, mais ils sont passés.
Déclaire Ngolibok est auteur d'un ouvrage intitulé « Violences sexistes et silencieuses, propos et comportements sexistes ». Le livre paru en 2019 raconte les circonstances d'une violente agression dont elle a été victime en 2017 dans son quartier à Yaoundé.
Et le jeune homme commence à menacer pour dire « je vais vous violer et personne ne pourra me faire quoi que ce soit ».
À travers ces douloureuses expériences, Tekla Ngolibok a vécu ce qu'endurent les femmes victimes de violences au Cameroun.
Dans les hôpitaux, si pour se faire soigner, pour être victime de violences, il faut débourser de l'argent dans les hôpitaux, ça pose des problèmes. On a dans des quartiers de l'échefferie, mais souvent dans ces cas de violences, chefferies sont muettes et ne peuvent apporter aucun recours à la population. Moi, j'ai été dans un commissariat où les enquêteurs n'étaient pas préparés. Ils ont ri du fait que je viens porter plainte pour une action qu'ils ont trouvée très banale. On comprend pourquoi une femme victime de violence, au début, elle est enthousiasmée pour dire elle va se rendre justice, elle va vers la justice. Et après, elle se refroidit, elle se renferme. Parce qu'il y a tout ce lot-là qui te suit au quotidien.
D'après le rapport de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme sur les violences conjugales et domestiques faites aux femmes, 130 femmes sont mortes au Cameroun sous les coups de leur conjoint entre 2019 et 2022. Plus de 20% des femmes, au cours de la même période, auraient eu leur premier rapport sexuel sans leur consentement. Cyril Roland-Béchon, directrice exécutive de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme.
Dans ce rapport, beaucoup ont été tués sous le coup de leurs époux et pour lesquels les affaires piétinent. On a même soulevé la question du féminicide. Est-ce qu'il n'est pas temps au Cameroun de poser la question du féminicide comme dans d'autres pays aujourd'hui? Parce que c'est les femmes qui sont tuées sous les coups, soit de leurs compagnons, soit de leurs partenaires, soit de leurs frères.
L'expert camerounais Anjar, Lekenedonfak, affirme que les femmes déplacées internes de la crise dans les deux régions anglophones sont aussi victimes au quotidien de violence à cause de leur dépendance économique. Un responsable de l'administration sur les questions de genre ayant requis l'anonymat soutient que le cadre juridique camerounais de répression des violences faites aux femmes comporte encore des limites.
Lorsqu'on voit des infractions, ça reste générique. On va vous parler des coups et blessures, des blessures graves, des blessures légères. Mais il n'y a pas une spécificité par rapport même aux préoccupations qui relèvent du domaine intime. Par exemple, quand on parle du viol, les éléments même constitutifs du viol restent très génériques. Parler même du viol conjugal, ça devient compliqué. S'il faudrait mettre vraiment l'accent sur ces questions spécifiques, il faudrait peut-être prendre des notions un peu plus spécifiques.
Lors du lancement de la campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Ondoa, a annoncé que le nouveau code de la famille va renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le pourcentage de filles qui se marient au Nigeria avant l'âge de 18 ans est passé de 44 à 30%. Mais le pays a toujours l'un des taux de mariage précoce les plus élevés d'Afrique. Un problème que les groupes d'aide s'efforcent de résoudre avec les communautés rurales. Voici un reportage de Timothy Obiezu réalisé dans l'état nigérian de Benoué, récit de Michel Joseph.
Dorsey Merga, 14 ans, est la plus jeune épouse d'un clan d'Alédé dans le centre de l'état de Benoué. Elle sert les repas et fait le ménage dans le cadre de ses nouvelles responsabilités depuis qu'elle a emménagé avec son mari, alors âgé de 17 ans. Merga est également enceinte de 5 mois et ne peut pas utiliser une bourse pour aller à l'école depuis son nouveau domicile.
En fait, je ne suis pas heureuse parce que je ne sais pas quoi faire. Mon mari a accepté que je retourne à l'école, mais à la condition que je parte d'ici en tant que sa femme.
Merga et d'autres filles de la communauté ont reçu une bourse d'études d'un organisme à but non lucratif lancé par Janet Kaatio, une crypto-investisseuse nigériane. Kaatio a mis sur pied cette organisation à la mémoire de son défunt père qui a promu l'éducation des filles dans le village. Elle a été choquée de découvrir que Merga s'est mariée et ne va plus à l'école depuis des mois. La belle famille de Merga explique que le mariage était consensuel et que les femmes plus âgées du clan l'aident à s'en sortir. Mais Janet Kaatio estime que le mariage précoce est une préoccupation majeure dans la communauté et c'est pourquoi son association se concentre sur l'éducation des filles.
La plupart des parents n'ont pas été à l'école, alors une fois qu'une fille atteint un certain âge, ils pensent qu'elle doit être donnée en mariage. Et pas seulement pour se marier, mais aussi pour que la famille obtienne de quoi nourrir de ce mariage. Même quand nous grandissions, quand mon père nous formait, les gens nous disaient « Mais que faites-vous là ?»
L'UNICEF estime que le Nigeria est le deuxième pays où le nombre d'enfants mariés avant l'âge de 18 ans est le plus élevé au monde, juste derrière l'Inde. Les autorités affirment que l'analphabétisme, la pauvreté et les traditions locales sont les principaux facteurs à l'origine des mariages précoces. Les autorités nigérianes et l'UNICEF ont publié les conclusions d'une enquête qu'ils ont menée conjointement. Celle-ci révèle une bonne nouvelle. Entre 2016 et l'année dernière, le mariage des enfants a diminué de près d'un tiers, passant de 44% à 30%. Mais le directeur de l'UNICEF au Nigeria, Peter Hawkins, fait remarquer que parce que le Nigeria a une population croissante, le nombre total d'enfants mariés continue d'augmenter.
La population est tellement énorme que...
La population est tellement énorme qu'une augmentation en pourcentage, disons une réduction dans le cas du mariage des enfants, est une bonne chose. Mais le nombre des filles entrant dans cette catégorie a augmenté de façon exponentielle. Les chiffres nationaux masquent les disparités régionales.
Selon l'UNICEF, à moins que la tendance ne change et que le Nigeria n'enregistre une réduction beaucoup plus significative, quelque 29 millions de filles seront des enfants mariés d'ici 2050. Kaatio et son équipe entendent continuer leurs efforts pour décourager le phénomène, tout en sachant que certaines filles, comme Merga, resteront liées par la tradition et les difficultés économiques.
Si jeunesse pouvait.
Un rapport de l'UNICEF sur les enfants talibés et les écoles coraniques en Côte d'Ivoire, réalisé en 2019 avec l'appui du ministère de l'Éducation, souligne que l'absence de contrôle des écoles coraniques par l'État comme par les parents laisse la porte ouverte à l'abus ou l'instrumentalisation des enfants talibés. Par ailleurs, le désengagement affectif et financier des parents dans l'éducation de leurs enfants expose ces derniers à des conditions de vie périlleuses pour leur santé physique ou mentale, précise le rapport. Il s'agirait moins de viser l'intégration des écoles coraniques que l'intégration des enfants talibés dans le système éducatif formel, est-il suggéré dans cette étude. Voici un reportage d'Aïcha Diara qui s'est rendue dans la région du Bounkani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, où mendier pour se nourrir est le quotidien des enfants talibés.
Les enfants qui sont chez nous à la maison, ce sont de nos enfants et puis les enfants des voisins. Ce sont des enfants qui vont tous à l'école. Maintenant, les jours où il n'y a pas école française, on apprend. Nos enfants sont là, on les nourrit comme il faut, on les habille comme il faut.
Idrissa Diallo réside au quartier Limamso de Bouna. Il est enseignant coranique depuis plus de 10 ans et en même temps commerçant. Tous les apprenants du Coran n'ont pas la chance qu'on ses élèves. Youssouf Ibrahim est un jeune talibé âgé d'environ 10 ans.
Il dit, il commence ce matin, il descend à 8h. Après 8h, maintenant, ils viennent au marché pour mendier. Le soir, si il descend aussi, après 16h, ils reviennent encore au marché pour mendier. Côté des restaurations aussi, c'est les gens qui les donnent, mais côté ses habits, c'est lui-même qui s'occupe. Et les jours aussi qu'il ne trouve pas à manger, il paye. Voilà, ou soit, au contraire, il reste comme ça.
Ils sont nombreux, ces enfants qui vivent de la mendicité tout en rapportant un peu d'argent au maître coranique. Même si cette dernière partie n'est pas reconnue par bon nombre de maîtres coraniques comme Idrissa Diallo.
Bon, c'est une question très profonde. On doit réfléchir beaucoup. Il y a des gens qui font croire que ces enfants-là mendient pour aller donner à leur oustaz. Mais rarement les enfants qui mendient pour aller... En tout cas, ce que moi, je connais.
Ces maîtres coraniques ont pour nom Modibo, qui est un mot arabe, al-Mouaidib, c'est-à-dire éducateur. Pour la plupart, ils sont peuls dans la région du Bounkani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Et leurs parents préfèrent leur apprendre le Coran plus que de l'école française. Pourtant, c'est un modèle qui a perdu tout son sens aujourd'hui, selon Moussa Diallo, secrétaire général des Peuls du Bounkani.
Donc, tu peux même voir l'enfant qui mendie de matin jusqu'au soir, c'est quel temps il prend pour étudier. Il y a certains marabouts même qui fixent des prix aux enfants, en fonction de l'image de l'enfant. Par exemple, un enfant qui est petit... Tu vois, c'est lui, il fait petit et donc lui, il gagne beaucoup plus.
Moussa Diallo a été lui-même talibé de 7 à 15 ans au Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire. Il y a été déporté par son père pour l'apprentissage du Coran. L'ex-talibé est aujourd'hui propriétaire d'une entreprise de lait qu'il gère avec sa petite famille. Une chance que tous les anciens talibés n'ont pas.
Et depuis à son enfance, il mendiait seulement jusqu'à l'âge de 20 ans comme ça. Les jeunes, maintenant, il ne peut plus mendier. Donc si quelqu'un vient lui proposer quelque chose. Surtout, viens faire quelque chose, on va te donner temps pour l'amour de Dieu, pour faire lutte pour la religion. Un, il n'a pas eu le temps même pour étudier le Coran, laquelle il était envoyé. Deuxième des choses, il n'a pas appris autre métier. Il est grand, il est dans les besoins. Il va faire comment? Il va accepter tout ce qu'on lui demande de faire pour avoir l'argent. Souvent même, ça conduit les purs. Et je vois même les phénomènes terroristes, souvent ça facilite par là. Ce n'est pas la religion, ni les coutumes, ni une tradition pure. C'est une exploitation.
Le 12 juin 2021, le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Bounkani, plus précisément à Téini, une attaque terroriste a fait 3 morts et 4 blessés, ce qui fait du Bounkani une zone rouge. Aïcha Diara, de passage dans le Bounkani pour VOA Afrique.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Au Togo, les orphelins dont les parents ont été tués dans les violences politiques de 2005 suite au décès de l'ancien président Niasingbe Eyadema seront désormais pris en charge par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Une bourse d'études mensuelle leur sera accordée sur une période de 5 ans. Les détails dans ce reportage de Kossi Wousou, correspondant de VOA Afrique à Lomé.
55 filles et 45 garçons constituent la première vague des enfants orphelins qui ont reçu l'aide de l'État. Parmi les bénéficiaires, la jeune Adjo Lucia, 18 ans. Elle a perdu son père qui a succombé lors des violences politiques de 2005 dans la ville d'Atakpamé. Faute de soutien, elle a dû abandonner l'école.
J'avais des maux de tête et d'yeux qui m'empêchaient d'apprendre mes cours. Nous sommes allés en consultation 2 fois. La 3e fois, ma maman n'avait plus d'argent pour les analyses. C'est comme cela que j'ai abandonné l'école. Avec la bourse, je vais me soigner et apprendre un métier.
Depuis 2005, Bonkou Kofi, habitant du village d'Akoumapé, s'occupe des enfants de son frère tué lors des manifestations politiques d'alors. Il apprécie l'aide que l'État apporte aux orphelins.
La prise en charge de ces enfants n'était pas facile, mais avec l'aide de Dieu, nous y arrivions. Nous nous réjouissons de ce coup de main du gouvernement. Il va améliorer le vécu quotidien de ces enfants et leur permettre de poursuivre aisément les études.
Sur une période de 5 ans, les bénéficiaires auront droit à une bourse mensuelle de 21 000 francs CFA. Awanana Daboya est la présidente du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale.
Faisons en sorte que pour les enfants, ça va être une activité qui s'inscrit toujours dans le cadre de rentrée scolaire. Oui, ça soulage beaucoup les parents. Mais je dois préciser que ça concerne les événements de 2005. Les événements de 2005, c'est ça qui a vraiment éprouvé beaucoup de parents et qui a causé des pertes énormes.
L'ancien Premier ministre Joseph Kwaku Kofigo avait été à la tête d'une commission d'enquête sur les événements de 2005, dont les conclusions faisaient état de plus de 150 morts. Aujourd'hui, il donne quelques conseils aux bénéficiaires.
Il est vraiment heureux que la CVJR ait prévu une recommandation en disant qu'il faut prévoir quelque chose de spécial pour les enfants. Voilà pourquoi je voudrais vous dire que les chèques qui ont commencé à vous être remis, c'est plus que de l'argent. C'est un outil formidable qui est mis à votre disposition puisque le programme va durer 5 ans.
Pour assurer la facilité de perception de ces bourses, la traçabilité et la transparence dans la gestion des fonds, un compte épargne a été créé pour tous les enfants bénéficiaires dans une banque de la place. Kossi Wusu, Lomé, pour VOA Afrique.
Entre parenthèses.
Au Tchad, la municipalité de Moundou, dans le sud du pays, a installé un centre d'enregistrement des naissances au sein de la maternité de l'hôpital provincial. Cette structure permet aux habitants des villages environnants de faire établir les documents administratifs de leurs enfants sans difficulté. Le correspondant de VOA Afrique au Tchad, André Konadjingar, a visité ce centre. Il nous en dit plus dans son reportage.
Installé le 5 octobre au sein du service de la maternité du dit hôpital provincial, le centre d'état civil pour l'enregistrement des naissances a rendu énormément service à la population de la province du Logone occidental. Valérie Ndolembaye étant paysan venu de Mbaynamar, une localité située à 98 km de Moundou avec sa femme qui a finalement accouché de jumeaux par césarienne. Valérie s'est dit comblée non seulement d'avoir des jumeaux dans sa famille, mais aussi d'avoir eu cette possibilité d'obtenir leur acte de naissance dès leur premier cri.
Je suis content parce que c'est mon devoir, même si l'acte de naissance ici je ne trouve pas, c'est que je dois chercher à aller à la mairie, c'est une distance, et comme une opportunité est donnée, que je dois avoir l'acte de naissance sur place, c'est déjà une très bonne chose.
Non loin de Valérie, dans les locaux de la maternité, deux femmes âgées d'environ 40 ans portent chacune un bébé dans les bras. Elles sont visiblement émues d'être grand-mère et expliquent au micro de VOA Afrique l'importance de l'acte de naissance.
C'est bon, non? C'est pour savoir là où tu es né, ton âge. Normalement, là. Asenga et Amoula, sinon.
Quand vous êtes né, là, vous avez l'acte de naissance?
Je n'ai même pas mon acte de naissance. Je me suis débrouillée comme ça seulement pour donner mon acte de naissance. Aujourd'hui, pour mes caca, là, c'est sorti directement, là, c'est bon.
La responsable du centre d'enregistrement des naissances, Marceline Bayamtar, parle du mécanisme de déclaration de naissance.
L'enfant est né aujourd'hui, les parents sont prêts, il vient déclarer. Et on a le bulletin de déclaration qui est ici. On laisse un avec les sages-femmes. C'est la majeure qui enregistre là-bas. On nous amène un bulletin de déclaration. C'est en ce moment que nous, on enregistre le nouveau-né pour lui faire un extrait d'acte de naissance. Depuis le 5 octobre, on a eu à enregistrer 104 bulletins de déclaration, 55 garçons et 49 filles.
Tout en saluant cette initiative, le surveillant général de l'hôpital provincial de Moundou, Byron Dundo, plaide pour que de tels centres soient installés dans toutes les provinces pour permettre aux nouveau-nés d'être enrôlés.
Il y a des enfants plus âgés, les parents attendent jusqu'à... C'est quand ils ont l'âge d'aller à l'école qu'ils cherchent à faire leur état civil. Or là, c'est pratiquement dans le bâtiment de la maternité, donc ça permet d'enregistrer au fur et à mesure les enfants. Malheureusement, c'est pas dans toutes les régions encore, mais sinon ça peut aider à avoir déjà une idée même exacte de la population tchadienne. C'est une très bonne chose.
Dans certaines communautés, il faut attendre 8 jours après la naissance d'un enfant pour lui donner un nom. Cette situation ne complique-t-elle pas cette initiative? Le délégué sanitaire provincial du Logone occidental, Dr Ongram Kouleta II, répond.
Effectivement, ça c'est une question qui est revenu. Donc je pense que cela a été pris en compte et même si on n'arrive pas à donner le nom de l'enfant, je pense qu'il y a des possibilités de rattraper cet enfant pour faire la régularisation. Également, des sensibilisations sont faites dans ce sens. Il faut trouver des stratégies pour prendre un peu de l'avance. Ça, c'est quelque chose qui est en réflexion.
Les agents formés à cet effet travaillent en commun accord avec les sages-femmes et ceux de la municipalité de la ville de Moundou. L'UNICEF appuie cette initiative dans le cadre de la protection de l'enfance. André Kodumadjingar, de retour de Moundou, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage.
Arrête!